Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
On a appris aujourd'hui que Frank Sylvestre, l'artiste de Montréal d'origine martiniquaise, intente une poursuite en diffamation contre certains militants qui l'avaient qualifié de raciste l'an dernier. Et ceux qui ont regardé la spéciale de fin d'année d'Infoman ont aperçu M. Sylvestre avec sa marionnette. Là, on le voit ici dans un article qui vient de paraître. Et cette marionnette, c'est une caricature de lui-même. Elle sert à M. Sylvestre à raconter une histoire, l'incroyable secret de Barbe Noire. Et donc, depuis longtemps, là, il fait ça. Pour discuter de tout ça, il y a Guillaume Rousseau, qui est avocat, qui représente M. Sylvestre. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Rappelons comme quelques faits de base d'abord, Guillaume. M. Sylvestre, comme je l'ai dit, il faisait ça depuis longtemps. Il s'est fait accuser de racisme en 2023. Puis après ça, il y a eu une mise en demeure, je pense, auprès de qui exactement?
Donc, le défendeur, la personne qui est visée par la poursuite, c'est Alain Babineau, donc qui est un militant, un dirigeant même de la Coalition Rouge, la Red Coalition, donc qui est un groupe qui prétend, qui combat le racisme et qui, bon, dans ce cas-ci, nous, évidemment, on prétend qu'il n'y a pas de racisme du côté de notre client et de son spectacle, mais donc, c'est un groupe qui milite contre le racisme. Et donc, c'est ça. Donc, il y avait le spectacle de mon client qui faisait depuis plusieurs temps déjà. Et à un moment donné, il y a eu une personne qui s'en est plaint en disant que c'était du blackface parce que c'est une marionnette donc noire, comme on le voyait bien là, sur l'image que vous avez présentée. Mm-hmm. Et à partir de là, bon, ça a engendré une controverse. On voit bien la marionnette de Franck sur cette photo. Et là ensuite, c'est que des gens se sont plaints et ça a amené d'une part dans une municipalité à ce que le spectacle soit sorti de la programmation du mois de l'histoire des Noirs. Alors que mon client est évidemment très très fier que son spectacle fasse partie du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'était un compromis, mais qui est évidemment insatisfaisant pour mon client. Dans un autre cas, le spectacle
donc, a carrément été... Donc, il a perdu des contrats à la suite de cette dénonciation-là de racisme, en tout cas de supposé racisme.
Dans un autre cas, le contrat a carrément été le spectacle a été annulé. Et dans un autre cas, il y a une commande aussi qui a été annulée. Donc, il y a eu une perte pour 1600 $ de la part pour mon client. Et s'ajoute à ça, évidemment, des dommages moraux, des dommages exemplaires parce que il y a eu des propos diffamatoires. C'est-à-dire que M. Babineau a fait des propos diffamatoires à la fois sur X, donc Twitter, et à la fois lors d'une conférence de presse. Donc, on a tous les propos. Donc, au niveau de la preuve, le travail est facile. Donc, vraiment des propos, donc on associe carrément mon client, son spectacle, à du raciste, et on appelle à la censure, donc c'est explicite, il y a un appel à la censure, donc c'est à la fois une atteinte à la réputation et une atteinte à la liberté d'expression de M. Sylvestre.
Mm-hmm. Donc, on affirme que M. Sylvestre, il fait du blackface. Rappelons un peu ce que c'est le blackface, c'est quand il n'y avait pas de comédien noir, on le remplaçait par un blanc qui se peinturlurait le visage. Et ça, évidemment, c'était une époque où il y avait du racisme, notamment aux États-Unis, là, sur les scènes et en France, je pense. Donc, blackface, c'est quelque chose qui est condamnable. Et comment on peut assimiler cette marionnette qui est au fond une caricature de M. Sylvestre à du blackface?
Ben c'est ça. Donc, nous, on pense qu'il y a un mauvais usage du concept de blackface. On pense qu'on, du côté de M. Babineau, on exagère complètement la portée du blackface. On interprète mal, en fait, le spectacle, que d'ailleurs, M. Babineau n'avait même pas vu au moment où il le qualifiait de blackface. Donc, ce qui explique peut-être aussi l'erreur ici, qui l'explique en partie, parce que c'est aussi idéologique, c'est aussi une façon de combattre le racisme en voyant du racisme vraiment partout. Donc, c'est aussi en partie idéologique. Mais c'est en preuve, M. Babineau n'avait pas vu le spectacle au moment où il l'a associé au blackface, et c'est une mauvaise interprétation du blackface. Et d'ailleurs, le procès, si on se rend procès, on espère toujours régler, on avait fait une mise en demeure dans l'espoir de régler, M. Babineau n'a pas souhaité régler, on souhaite toujours régler, mais si jamais on se rend à procès, je pense que ce sera beaucoup une question d'un débat d'experts. Donc nous, on aura une expertise qui viendra démontrer que le blackface, c'est notamment associé à des stéréotypes. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un blanc peinturé en noir, mais de manière à présenter sous un jour défavorable les Noirs. Donc, on présentait des comportements que les Blancs associaient aux Noirs, on ridiculisait finalement la personne noire. Alors, ce qui est à des années-lumière du spectacle de M. Sylvestre, évidemment, où la marionnette de couleur noire est plutôt héroïque là-dedans et vient à la fin un petit peu régler le mystère et tout. Donc, on est à des années-lumière de ce que c'est que du blackface. Et je pense
une sorte de sorcier, d'après ce que j'ai compris.
Ouais, effectivement. Donc, on est complètement dans un imaginaire qui a rien à voir avec le blackface de cabaret de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Donc, nous, c'est ça qu'on va être à même d'amener. Donc, c'est-à-dire le fait pour le défendeur d'associer notre client son spectacle à du racisme de manière déraisonnable. Donc, c'est ça qui constitue la faute. Donc, associer quelqu'un à du racisme lorsque la personne qu'on associe à du racisme tient des propos racistes, ben ça, c'est pas une faute. Puis s'il y a des dommages pour la personne raciste, ben c'est juste correct. Mais lorsqu'on associe une personne à du racisme déraisonnablement, donc sans avoir des motifs raisonnables d'associer la personne à du racisme, c'est là où ça devient de la diffamation, une faute civile, et la personne qui tient les propos diffamatoires doit donc être responsable de ces propos-là, du préjudice causé, d'où la poursuite en dommages.
C'est ça, on n'est pas en droit criminel avec les propos haineux. Aucunement ici, on est en droit civil. Là.
Exactement. Donc, c'est une poursuite devant la Cour du Québec pour atteinte à la réputation et à la liberté d'expression. Et ça, c'est un aspect plus particulier. Sur la diffamation, il y a de la jurisprudence. Puis comme je vous dis, c'est très clairement établi que traiter quelqu'un publiquement de raciste sans avoir de bonnes raisons, c'est des propos diffamatoires, c'est une atteinte à la réputation. Maintenant, il y a moins de jurisprudence sur la question de l'atteinte à la liberté d'expression. Donc là, on va peut-être être un peu plus... le jugement qu'on veut aller chercher va peut-être davantage créer un précédent, même si, quand on regarde concrètement dans la jurisprudence, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut se raccrocher. Puis surtout les faits parlent d'eux-mêmes. C'est un appel à la censure explicite. Un journaliste demande à M. Babineau, est-ce que vous appelez à la censure de la poupée? Puis il dit oui, on appelle à la censure de la poupée au Québec, partout ailleurs. Et il en a résulté une censure qui est un lien direct. On a aussi une preuve comme un organisme qui avait commandé le spectacle qui annule la commande en disant que c'est en raison de la controverse de certains groupes. Donc, le lien entre la faute et l'atteinte à la liberté d'expression artistique de M. Sylvestre, c'est très clair. Fait qu'il y a aussi une question de liberté d'expression vraiment intéressante.
Il me semble qu'il y a un choc des libertés d'expression ici. La liberté, évidemment, artistique de M. Sylvestre, mais la liberté aussi de critiquer, de condamner quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas devant deux libertés d'expression là qui s'entrechoquent?
On peut le voir comme ça, mais en même temps, je vous dirais que la diffamation comme limite à la liberté d'expression, c'est très clairement établi dans la jurisprudence. Donc, autant les deux grandes limites à la liberté d'expression qui sont clairement reconnues dans toutes les démocraties, puis dans notre droit québécois et canadien, c'est la question de l'incitation à la violence. L'incitation à la violence, donc ça, c'est une limite à la liberté d'expression. Et la diffamation. Donc, à ce moment-là, nous, on n'est pas... si jamais M. Babineau est condamné, ce ne sera pas un précédent qui vient faire reculer la liberté d'expression, parce que c'est déjà bien établi en jurisprudence que la diffamation, c'est une limite en démocratie, parce qu'en démocratie, chacun a un droit à être l'autre. Donc ici, c'est à mon avis... Ça peut être perçu à certains égards comme liberté d'expression contre liberté d'expression, mais c'est surtout une question de protéger la réputation. Donc, une liberté d'expression utilisée abusivement de manière à porter au droit fondamental d'autrui à la sauvegarde de sa réputation et en plus à sa liberté d'expression dans ce cas-ci, en appelant à la censure, c'est vraiment pour nous ça qui est le cœur du débat. Puis je vous dirais que l'argument de la liberté d'expression pour M. Babineau, dans la mesure où sa liberté d'expression consiste à prôner la censure et à prôner la limitation de la liberté d'expression d'autrui, bon, c'est quand même particulier comme usage de la liberté d'expression.
Ouais, mais la liberté d'expression a suscité récemment aussi des lois contre les poursuites Bayon. Est-ce que c'est un juriste qui me disait ça tout à l'heure, peut-être que justement la défense ça va être de dire ce que M. Sylvestre essaie de faire, c'est de bâillonner. On le sait, les poursuites Bayon, quand une compagnie dit lance une poursuite pour faire taire des militants. Est-ce que ça, c'est pas une possibilité d'argumentation du côté de la partie adverse?
Honnêtement, je pense pas. Évidemment, je peux pas présumer des arguments de la défense et des véhicules procéduraux qu'ils pourront utiliser là, pour la défense de M. Babineau. Mais ce serait très surprenant parce que bon, faut comprendre que la loi anti-Bayon, c'est une loi en matière de procédure civile. Donc, c'est une façon de faire rejeter une requête introductive d'instance de manière hâtive, donc même pas se rendre à procès, dire tout de suite en partant le seul but est de limiter la liberté d'expression ou c'est complètement non fondé en droit, on arrête ça à un stade hâtif. C'est très rare que les juges vont s'en aller dans cette direction-là. Parfois, les juges vont à la limite adopter un certain nombre de mesures, bon, pour mieux encadrer la poursuite, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Mais dans ce cas-ci, il y a pas d'abus pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas une grande compagnie. Vous le disiez à l'instant, souvent les poursuites Bayon, c'est une grande compagnie qui est accusée de polluer. Et là, elle poursuit le petit groupe écolo.
C'est Goliath contre David, là.
Exactement. Alors là, je vous dirais que dans ce cas-ci, Frank Sylvestre est aussi un David. Donc ici, un petit. Il y a l'appui d'un organisme, Droit Collectif Québec, qui contribue aux frais, parce que surtout s'il y a l'expertise, les huissiers et tout, bon, moi-même, j'ai un peu de frais professionnels et tout, donc il y a l'aide d'un organisme à but non lucratif, mais on est loin d'une multinationale là, qui aurait un budget illimité pour les expertises, les avocats, etc. Donc, et c'est une personne qui a des revenus comme artiste multidisciplinaire, mais qui n'est pas un millionnaire, face à Monsieur Babineau, qui est bon un retraité de la GRC, je pense, qui est de la Red Coalition, donc je pense qu'il y a les moyens de se défendre. Et d'autre part, faut comprendre que nous, ce qu'on réclame à la conclusion donc de la demande introductive d'instance, c'est 26 600 $. Donc 1 600 $ parce qu'il y a un spectacle qui valait 1 600 $ de cachet qui est annulé.
C'est pas punitif, je trouve, Guillaume Rousseau.
Non, c'est ça. 15 000 de dommages moraux, 10 000 de dommages exemplaires. Donc, vraiment, par rapport à la jurisprudence, on est très très modéré dans nos demandes de dommages. Même que si ça dure beaucoup, là, les frais d'expertise, d'avocat, de huissier et tout pourraient quasiment dépasser ce que M. Sylvestre pourrait revenir. Donc, M. Sylvestre, je vous assure, fait pas ça pour l'argent. Il le fait pour établir sa réputation, celle de son spectacle, de son art, pour défendre sa réputation et la liberté d'expression. Mais vraiment, le fait que ce soit une modique somme, là, 26 600 $ par rapport à d'autres poursuites en diffamation, vraiment, si on avait voulu faire une poursuite Bayon, on serait allé pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire peur à M. Babineau. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Puis même qu'on souhaite régler. Donc, on n'est pas du tout dans une optique là, de faire peur à M. Babineau, de l'intimider judiciairement. On est au contraire dans une optique. Après la mise en demeure, on a souhaité qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un règlement à l'amiable. On le souhaite toujours. Donc, on est vraiment très loin des critères de la jurisprudence là, pour une poursuite Bayon.
Je suis content que vous soyez avec moi aujourd'hui parce que j'ai un autre sujet à aborder, Guillaume Rousseau. Il y a la loi 21. On sait que la loi sur la laïcité québécoise est donc contestée devant les tribunaux. Il y a eu une première instance, là, la Cour supérieure qui s'est penchée là-dessus. Là, on est rendu à la Cour d'appel. C'est cette année qu'on va avoir le jugement. On devait l'avoir, je pense, en 2023. Mais et vous avez été avocat du mouvement laïque québécois. À quoi vous attendez et qu'est-ce que vous entendez aussi quant au dépôt de ce jugement-là?
Ben en fait, on n'entend rien. Honnêtement, le secret du délibéré, à ma connaissance, est parfaitement respecté. Donc, j'ai entendu aucune rumeur, quoi que ce soit. Il peut y avoir des gens qui spéculent sur les raisons du long délai, là, mais vraiment, à ma connaissance, le secret du délibéré est complètement respecté et c'est tant mieux. Mm-hmm. Sinon, comme je vous dis, on ne peut que spéculer. Donc, et je suis d'accord avec vous que c'est quand même un peu long. En même temps, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de questions. Là. Il y a la question de la clause dérogatoire, la liberté de religion, le partage des compétences, les principes non écrits. Donc, c'est qu'en fait, à mon avis, c'est que les gens qui contestent la loi 21 ont pas de bons arguments, ont pas comme un ou deux très bons arguments. Donc, ils plaident des dizaines d'arguments qui, à mon sens, sont mauvais. Certains les qualifieront de moyens, peut-être, mais c'est ce qui explique, c'est qu'ils ont tellement plaidé de choses que là, les juges, probablement, se sentent obligés de répondre à tout ça. Et donc, c'est possiblement ce qui fait que c'est très long. L'autre raison, c'est qu'il y a trois juges. Donc, on n'est pas comme en cour supérieure où, à peu près, bon, 4 ou 5 mois, le juge Blanchard avait pu rendre sa décision. Il était le seul à écrire. Donc, même si c'était une longue décision avec plusieurs questions, c'était possible pour lui de régler ça. Là, on a trois juges. Donc, ce qu'on peut, même encore dit, c'est des spéculations. Est-ce qu'on peut penser que peut-être que les juges sont pas d'accord sur tout, puis qu'à ce moment-là, ils discutent entre eux, puis qu'il y aura peut-être une opinion dissidente. Bon, voilà, comme je vous dis, c'est de la spéculation, mais c'est quelque chose qui est probable. De toute façon, on s'attendait à cette... Il y a des questions tellement complexes, puis à l'entendre les interventions des juges au procès, on pouvait penser qu'il n'y avait pas toujours exactement le même angle, la même sensibilité ou la même analyse. Donc, des avis dissidents ou minoritaires, concordants ou dissidents sont possibles. Donc, à ce moment-là, ça se peut que dans le même jugement, il y ait non pas une, mais deux, voire trois avis sur une même question. Et là, on a des dizaines de questions. Donc, je pense que c'est ce qui explique le long délai là, avant d'avoir ce jugement.
Et c'est une étape probablement transitoire pour aller en Cour suprême. Tout le monde le dit, là.
Oui, sans doute, parce que au moment du premier jugement, donc, qui était globalement très favorable à la loi 21, sauf sur deux points, donc, qui confirmait la validité de la loi sur la laïcité, mais souhaitait la rendre, disait qu'elle devait être rendue non applicable aux commissions scolaires anglophones, d'une part, et d'autre part, il y avait la question de l'interdiction du port de signes religieux par la présidence, vice-présidente de l'Assemblée nationale et l'interdiction du visage couvert par les députés de l'Assemblée nationale. Donc, si on jugeait que ça portait atteinte au droit d'éligibilité, donc au droit de se présenter aux élections. Mais tout le reste des arguments étaient rejetés, puis pour tout le reste, la loi sur la laïcité était validée. Donc, ce que ça a eu pour effet, c'est que ceux qui contestent la loi ont dit, ben tout le jugement, sauf ces deux aspects-là, on le porte en appel parce que nous, on pense que c'est toute la loi qui est inconstitutionnelle. Ceux qui défendent la loi, dont mon client, le mouvement laïque, disent au contraire, le jugement, sur le fond, les conclusions sont valides, sauf sur ces deux points-là. Donc, on en appelle de ces deux points-là. Donc, vous comprenez qu'en cour d'appel, peu importe ce que la cour d'appel va dire, puis ça se pourrait que ce soit comme la cour supérieure, avec une partie du jugement en faveur de la loi, avec un ou deux aspects moins en faveur. Bon, ben, dans tous les cas, tout ça sera porté en appel fort probablement, en cour suprême, donc.
Ça va sûrement être un haut fait de 2024 en matière juridico-politique, parce que ça va avoir des effets politiques sûrement comme jugement. Alors, merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là.
Ben certainement. On l'attend d'un jour à l'autre depuis des mois, vous allez me dire, mais ouais. On l'attend quand même d'un jour à l'autre, donc on se reparle, je l'espère, bientôt.
Je rappelle que Guillaume Rousseau est avocat et aussi professeur de droit à l'Université de Sherbrooke.